Bon, on commence la semaine avec un petit parfum d'élection du côté fédéral.
Oui, monsieur.
Alors, précise ta pensée.
Monsieur Rodriguez, le leader du gouvernement Trudeau en chambre, Pablo, a informé les autres partis vendredi qu'il souhaitait imposer le baillon. Bon, eux autres, ils appellent ça là, une allocation de temps. Là, mais c'est le baillon. Sur le projet de loi C-19 qui... crée des règles spéciales, Paul, pour un vote en temps de pandémie.
OK.
Fait que visiblement, il se prépare quelque chose. Alors, je vais pas aller trop dans le détail, là. J'oublie pas qu'il est 7 heures le matin. Mais retenez deux choses. Le fameux projet de loi, s'il est adopté, puis ça va prendre évidemment l'appui d'au moins un autre parti, parce qu'ils sont minoritaires, les libéraux. Mais si le projet de loi était adopté, Paul, le jour du scrutin, du prochain scrutin, durerait littéralement 3 jours. On voterait... Alors, habituellement, on vote le lundi aux élections fédérales. Ben, même chose à Québec. Et là, selon le projet de loi, on commencerait à voter le samedi. On pourrait voter samedi...
Et là, c'est pas le vote anticipé, là. Non, c'est vraiment la période normale de votation, mais étalée sur 3 jours.
Exact.
Okay.
On garde le vote par anticipation. Oui. Il y aurait 4 jours de vote par anticipation. Vous pourriez continuer à aller voter au bureau du directeur de scrutin à tous les jours. Fédéral, c'est spécial, ça. Dès le premier jour de la campagne, tu peux aller au bureau du directeur puis voter. Tu as les 4 jours de vote par anticipation, puis tu as le vote général le lundi. Bien là, on commencerait à voter le samedi. Tu pourrais voter le dimanche, puis tu pourrais voter le lundi. Donc, tu aurais 3 jours, un derrière l'autre. Et l'autre mesure que prévoit le projet de loi, c'est d'utiliser beaucoup plus le vote postal. Parce que là, Élections Canada, ils ont fait un sondage qui indiquait que tu aurais 4 à 5 millions d'électeurs qui se prévaleraient du vote postal. Enfin, qui songeraient sérieusement à se prévaloir du vote postal en temps de pandémie pour éviter, évidemment, de se déplacer au bureau de vote. Parce que l'idée d'étaler ça sur 3 jours, évidemment, c'est pour réduire l'affluence, faire en sorte que les mesures de distanciation sont davantage respectées, protéger le personnel électoral, qui est souvent recruté chez les personnes plus âgées. Alors, l'utilisation du vote postal, Paul, serait encouragé. Élections Canada mettrait en place là, des moyens pour que vous, si vous voulez, vous puissiez voter par la poste.
Mais est-ce qu'ils ont le temps de faire ça pour une élection que tu vois quand, là? Parce que tu me présentes comme des raisons, parfait, mais pour le mois de juin ou ben non, pour l'automne?
Le scénario qui est le plus souvent évoqué actuellement à Ottawa, c'est déclenchement autour de la mi-août.
Okay.
Pour un vote quelque part en septembre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que le projet de loi soit voté pour donner au directeur général des élections le temps de se préparer. Mais j'allais te dire, sur le vote postal, Paul, ce qui est très particulier, c'est non seulement il l'encouragerait, mais il permettrait au vote de rentrer jusqu'au mardi 18h. Fait que ça veut dire que dans certains comtés où les élections, où les résultats sont serrés, on pourrait se retrouver devant notre TV le lundi soir et ne pas savoir qui est notre député, et peut-être même, si c'est très serré, ne pas savoir qui est le gouvernement jusqu'au lendemain soir, quand tous les votes postaux auront été comptés. Alors, je vous disais, évidemment, c'est un projet de loi. Alors, c'est une motion d'abord de baillon. Fait que là, il faut que les libéraux trouvent quelqu'un. Là. Est-ce que c'est le NPD? Est-ce que c'est le Bloc qui va accepter de se joindre à eux pour imposer le baillon là-dessus? À voir, première chose. Puis deuxièmement, Paul, après ça, il faut adopter le projet de loi comme tel.
Toi, quand tu parles du vote postal, là, à Montréal, il y a un enjeu. Parce qu'on permet là, que des gens puissent voter à distance, mais dans des catégories précises. Mm-hmm. Et notamment pour des personnes plus âgées qui seraient peut-être réticentes à aller voter. Là, c'est quand même au mois de...
On est encore en pandémie, Paul.
Ben, en tout cas, on est dans un contexte qui n'est pas habituel. Puis là, à la ville, on nous dit « Ah, c'est pas faisable, c'est trop compliqué. » Le greffier, lui, il dit « Ben, c'est compliqué, mais si j'ai une demande, on va... » Si le fédéral est capable d'organiser un vote postal, je ne peux pas croire que la ville de Montréal n'est pas capable de faire la même chose pour des élections cet automne.
Je suis assez d'accord avec toi. Quoique je ne connais pas, y en a-t-il un vote postal au municipal?
Cette année, il y en a un de prévu.
OK.
Mais il est limité à des catégories.
Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais habituellement, il n'y en a pas, hein?
Non, je pense que c'est la première fois qu'il y en a.
Oui, c'est ça. Alors, ils peuvent soutenir que c'est comme c'est la première fois, c'est plus compliqué à organiser, etc., etc. Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas le temps de le voir venir.
Mais là,
non. Puis ils ont quand même quelques mois devant eux, là.
On sait ce que c'est le vote postal comme enjeu d'une élection. On a juste qu'à regarder au sud pour s'en apercevoir encore aujourd'hui, là.
Ben oui, absolument. Ils recomptent en Arizona.
Non, puis il y a des États où on veut rendre ça encore plus difficile.
Voilà.
Okay, bon.
Alors, ça, c'est pour le projet de loi. Puis, comme c'est un projet de loi qui modifie la loi électorale, Paul, souhaitons que Pablo Rodriguez soit dans un mode consensus. Parce que, tu sais, moi, j'en ai fait adopter des lois là, qui changeaient la loi électorale à Québec, là, que ce soit le vote sur le campus, que ce soit les élections à date fixe, que ce soit le financement des partis. Puis quand tu touches à la loi électorale, tu dois viser le plus large consensus possible. À Québec, on l'avait fait voter à l'unanimité des quatre partis. Il me semble qu'à Ottawa, Pablo devrait viser au moins trois des quatre partis. Que les conservateurs ne veuillent pas embarquer, on s'y attend. Mais il faudrait au moins, tu modifies la loi électorale, il faudrait qu'il y ait plus que les libéraux et un autre parti qui vote en faveur. Là.
Bon, autre projet de loi qui t'intéresse, le C10. C'est quoi ça, le C10?
Le C10, c'est le fameux projet de loi de Stephen Guilbeault, là, pour obliger les géants du web, Paul...
À payer le contenu, là?
À payer pour du contenu d'ici, que ce soit du contenu québécois ou canadien. Donc, pour forcer Apple, Spotify, YouTube à mettre de l'argent dans le pot. Comme les câbleaux doivent le faire déjà, là. Hein, les radiodiffuseurs canadiens, ils doivent déjà contribuer à la production de contenu canadien. Bon. Alors là, C10 est embourbé. Le projet de loi est embourbé, Paul, dans le comité parlementaire qui l'étudie. Les conservateurs le bloquent parce qu'ils craignent que le projet de loi de Guilbeault donne trop de pouvoir au CRTC, puis ils ont peur que ça finisse par nuire à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Bon. Moi, je vais te dire, Paul, j'ai légiféré pendant presque 10 ans, là. J'en ai fait des projets de loi. C'est vrai que des fois, les articles sont mal rédigés. Bon. Mais tu te mets à gang, les différents députés des différents partis se mettent à gang, puis ils changent le libellé, puis on trouve une manière de régler le problème. S'il y a une brèche, s'il y a un problème avec un des articles du projet de loi de Guilbeault, bien, travaillez ensemble pour le régler. Demandez aux légistes du ministre Lametti, du ministère de la Justice, de vous soumettre des avis juridiques. Faites comparaître s'il faut Lametti et Guilbeault pour qu'il vous rassure en matière de liberté d'expression. Mais Paul, on ne peut pas se permettre d'échapper ce projet de loi-là. Il ne faut pas que ça soit reporté à après les élections. Écoute, ça représente 8 à 900 millions de plus pour la culture d'ici si on fait payer YouTube, Apple et Spotify. C'est 2 à 300 millions de plus pour la culture québécoise. Fait que je dis aux conservateurs, réglez le problème avec les libéraux, mettez-vous ensemble, les bloquistes, s'il vous plaît, tu sais, c'est la culture...
Mais t'es dans un vaste appel ce matin à la collaboration entre les partis pour faire avancer les choses.
Paul, je le suis.
Bon, mais c'est bien.
Je le suis parce que...
Je le constate.
Ben, les milieux culturels québécois, Paul, sont... Écoute, je connais pas un groupe qui est contre ce projet de loi-là. Tout le monde le veut au Québec. Bon, tu vas me dire, la culture au Québec, c'est toujours plus sensible que dans le reste du pays. Mais quand même, puis je dis aux conservateurs, rappelez-vous votre élection 2008, quand vous avez niaisé avec les programmes d'aide aux artistes. Rappelez-vous la vidéo de Michel Rivard qui vous avait fait perdre beaucoup de comtés au Québec, qui vous a peut-être fait perdre votre majorité. Niaisez pas avec la culture. Tu sais, puis je comprends que dans le reste du Canada, c'est sensible. Je comprends. Mais, regarde, règle ton problème. T'as un problème avec le libellé, avec le phrasé de l'article. T'as des craintes pour la liberté d'expression. Resserre l'article. Travaillez ensemble pour régler le problème. Mais faites pas de politique avec ça. Ça va vous péter d'en face.
En terminant, il y a une mine au Québec, une grosse mine là, qui se retrouve face à la grève aujourd'hui.
La plus grosse mine au Québec, Paul. La plus grosse mine au Québec pourrait être en grève dès aujourd'hui. Je vous parle de deux mines. Deux mines de fer. Sur la Côte-Nord, les mines d'ArcelorMittal, la grosse mine du Mont-Wright, puis il y a une autre petite mine à côté, bien plus petite, la mine de Fire Lake. Je vous parle de plusieurs milliers de syndiqués qui travaillent dans ces deux mines-là. Et là, ils votent à matin sur les dernières offres, et si c'est rejeté, ils ont un mandat de grève générale illimité qu'ils pourraient déclencher comme ça. Puis je vous le dis, là, les deux mines d'ArcelorMittal, les deux mines de fer, là, ils fournissent 42 % de tout le minerai de fer du Canada, Paul. C'est le plus gros employeur privé sur la Côte-Nord. C'est plusieurs milliers de syndiqués, pas juste dans les mines d'ailleurs. La fameuse usine de boulettes de Port-Cartier qui fabrique du concentré, du super concentré de fer qui est utilisé après ça dans l'acier. Tu sais, les poutres d'acier du pont Champlain, ça a été fabriqué avec le minerai de fer de la Côte-Nord, d'ArcelorMittal. Il y a des pièces de voiture qui sortent de l'usine de Dofasco à Contrecoeur, qui servent à fabriquer des... alors, il y a du minerai de fer qui sert à fabriquer l'acier, qui sert à fabriquer les voitures. Alors, c'est des beaux salaires. C'est une moyenne de 150 000 piastres par année, travailler dans le fer. Sauf que les prix du fer sont très élevés actuellement, puis les syndiqués veulent avoir leur part du gâteau. Sauf que ça, c'est cyclique dans le domaine des mines. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Fait qu'il faut trouver le compromis, Paul. Moi, ce que j'entends, c'est que les offres sur la table, j'entends 14 % sur 4 ans. 14 % sur 4 ans.
Aïe, aïe.
Ouais, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. C'est tout ça à vérifier. Mais s'il rejette, si c'est ça, puis il rejette ça, là, aïe, aïe, comme tu dis.
Salut, bonne journée. 7h12, la métropolitaine.